midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle de livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche. Et alors que cette année on commémore le 70e anniversaire des relations bilatérales entre l'Indonésie et la France, je vous propose un book club javanais ce matin. J'ai invité le professeur Warsito. Bonjour professeur.
Bonjour.
Bienvenue à Paris.
Merci Pierre Monod.
Professeur Warsito, je vous ai demandé votre prénom, mais quel est votre prénom?
Oui, c'est ça en fait. Parfois en indonésien, il n'y a qu'un seul mot pour le nom. Le nom et le prénom, c'est le même mot.
Donc vous êtes Warsito.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et vous êtes attaché pour l'éducation et la culture à l'ambassade d'Indonésie en France.
Voilà, merci.
Vous êtes venu avec Marius Moragues. Bonjour Marius.
Bonjour.
Vous êtes baroudeur, photographe et vous êtes l'auteur d'un très très beau livre qui s'appelle Beyond Java. Alors c'est Beyond ça. Java, Beyond, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors Beyond, en fait, c'est la philosophie que j'ai voulu donner à mon livre. Ça veut dire au-delà, c'est en anglais en fait. Et c'est une collection de livres. Et j'ai commencé avec le premier tome, Beyond Java. Donc du coup, j'ai exploré d'est en ouest toute l'île de Java. Pour faire ce livre, voilà, Beyond Java.
Voilà, et vous avez créé un projet photographique, qui s'appelle Imperfect Frame.
Voilà, Imperfect Frame.
Et ça veut dire quoi?
Alors, Imperfect Frame, c'est mot à mot, ça serait plutôt, alors ça va être de l'anglais, mais en français, on pourrait le traduire comme photo imparfaite, en fait, puisque moi, je m'intéresse surtout, comme vous l'avez dit, je suis baroudeur, donc je vais dans les endroits les plus reculés. Je m'intéresse surtout aux locaux, à leurs imperfections, aux gens un petit peu que l'on peut rencontrer tous les jours, dans la vie de tous les jours. Mmh. Et j'essaie de tirer, en fait, de ces imperfections, on va dire, en fait, toute la force, l'énergie, l'inspiration que ces gens peuvent me procurer lors de mes rencontres avec eux. Donc, voilà la philosophie.
Aujourd'hui, vous êtes un baroudeur, mais avant de poser le pied en Asie du Sud-Est, est-ce que vous étiez déjà un baroudeur?
Alors, j'étais déjà baroudeur avant de visiter l'Indonésie, en fait.
L'Asie, en général?
Tout en Asie, un petit peu fait toute l'Asie. Je suis parti, je fais le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, tous les pays. J'avais une liste en fait que je devais où je voulais voyager. Et mon dernier pied de la liste, c'était l'Indonésie. Et voilà, avec beaucoup de rencontres et aussi un petit peu de hasard, je suis tombé vraiment amoureux de ce pays et des locaux, ce qui m'a fait rester dans cet archipel.
Bon, en septembre 2015, donc il y a 5 ans, vous posez pour la première fois votre pied en Indonésie, c'est après ça. Tout un périple en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui fait que finalement, c'est le dernier pays de la liste qui vous a le plus tapé dans l'œil?
Justement, Beyond Java, c'est surtout un livre qui rend hommage à l'Indonésie, mais surtout à son peuple, à ses locaux. C'est un peuple qui est ultra souriant, très charmant, très ouvert avec tout le monde, tous les étrangers. Et c'est justement pour cette raison pour laquelle je suis resté en Indonésie. C'est grâce ou à cause des gens que j'ai rencontrés, parce que c'est eux qui m'ont fait rester. Et partout où j'allais, je me sentais à la maison. Donc, je n'avais aucune raison de rentrer en France.
Mais c'était pas le cas dans les autres pays que
c'était, vous... c'était le cas. C'est-à-dire que dès qu'on va en Asie, partout, on est plus ou moins très, très bien accueillis. C'est juste que pour moi, l'Indonésie, il y a eu une affinité qui s'est créée, qui a été plus spéciale que dans les autres pays, en fait. L'ouverture des gens, la façon dont ils m'ont parlé, la façon dont je me suis surtout senti, la sécurité, tout cela m'a fait comprendre que je devais rester dans ce pays un petit peu plus longtemps. Et c'est pour cela, même si j'étais censé rester un mois aussi en Indonésie, parce que j'avais passé un mois dans les autres pays aussi d'Asie du Sud-Est, j'ai décidé de passer un petit peu plus de temps dans cet archipel.
Ça c'est parce que d'un point de vue, on va dire, de formalité, on est tenu de rester 30 jours.
Exactement. Donc c'est ce que j'ai fait.
Voilà, on est tenu de changer.
J'ai juste renouvelé après en fait mon titre de séjour, donc c'est ce que j'ai fait. C'est un petit peu comme une drogue ou une addiction, pardon. On veut toujours en découvrir un petit peu plus davantage et moi c'est ce que j'ai juste renouvelé mon titre de séjour et après j'ai plus voulu partir. C'était vraiment une attache émotionnelle tant au niveau des gens que de la culture qui s'est créée petit à petit. Voilà, et du coup c'est pour ça que je suis resté en Indonésie.
L'Indonésie, c'est le plus grand archipel du monde. D'ailleurs, professeur, quand on parle de l'Indonésie, on dit Nusantara.
Voilà, c'est ça.
Nusantara, ça veut dire...
Ça veut dire les îles.
Les îles.
Voilà, c'est ça, archipel.
Il y en a combien des îles?
Plus de 17 000 îles, en fait. Mais ce qui est habitable, c'est à peu près 922 ou 1000, qui est habitable.
Exactement. Dans la moitié qui n'ont pas de nom. C'est-à-dire que c'est tellement un archipel qui est tellement grand, n'est-ce pas? Que la moitié n'ont pas de nom. C'est-à-dire que, en gros, on a exploré l'archipel. C'est tellement, c'est tellement émancipé, ça s'étire en fait d'ouest en est. Pour vous faire un petit topo, c'est un petit peu la distance entre Londres et Kaboul en Afghanistan. Mmh. Donc ça s'étire sur plus de 5000 km. Alors sur 5000 km, si on a 17000 îles,
voilà,
on peut pas toutes les explorer, on peut encore moins leur donner de nom. Mmh. Voilà, donc
c'est ça en fait l'une des raisons, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure en fait, c'est quoi la différence avec les autres pays? C'est ça en fait. Ça se voit parce qu'on est vraiment riche au niveau du nombre d'îles. C'est exactement, ça correspond avec la culture, les différentes cultures. C'est pour cela, en fait, notre paix, la diversité dans l'unité.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Alors, ce que vous dites, la diversité dans l'unité, ouais, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la devise nationale.
Voilà, c'est ça.
Hein, dites-le en indonésien.
Bhinneka Tunggal Ika. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est la devise nationale indonésienne.
Voilà, c'est ça, oui.
Et c'est ce que vous avez voulu, vous, Marius, voilà, retraduire dans vos livres, mais c'est un projet qui reprend toutes les parties d'Indonésie.
Exactement, c'est un projet sur les 10 prochaines années au moins, parce que je suis de nature assez perfectionniste, donc ce que je voulais faire surtout, c'était proposer une collection de livres, commencer par Java, parce que c'était là où je vivais, enfin je vis à Jakarta, et après continuer mon chemin, mon périple, en documentant chaque île, puisque chaque île a une propre identité culturelle, hein, c'est ce que vient de dire monsieur.
Il y a effectivement, il y a île et île. Les grandes îles de l'Indonésie sont
cinq en fait.
Ouais.
C'est Java, justement, ce qu'il a été, Mario, c'était là-bas. Et puis, deuxième, c'est Bornéo. C'est juste en face de Java. Et puis, côté, l'ouest, c'est Sumatra. Et puis, Sulawesi, ou bien, qu'on l'appelle parfois Celebes. Et puis, Papouasie.
Et les îles Moluques. Hein.
Ouais, le Molouk.
Et les îles Moluques.
Le Molouk, c'est un groupe des îles.
Exactement.
En fait.
Et alors, ce qui est paradoxal.
Et Bali, en fait, c'est juste.
Ben oui, parce que.
Bali. Ici, les Français connaissent, entre guillemets, que Bali.
Exactement.
Bali, Lombok, maintenant.
Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, ça
commence. En fait, Bali et Lombok, c'est vrai que Bali, c'est très, très connu parce que c'est une toute petite île hindouiste. C'est la seule petite île hindouiste. Voilà. C'est un regroupement. En fait, Bali, c'est l'île qui est totalement à l'ouest, mais c'est l'île la plus à l'ouest du regroupement des petites îles de la sonde que l'on appelle.
Oui.
Parce qu'après il y a Lombok qui suit et plus on se déplace vers l'est.
Flores, Sumba, Sumbawa.
Voilà.
Jusqu'au Timor.
Exactement. Jusqu'au Timor.
Voilà. Moi je suis allé jusqu'au Timor. Hein, je peux vous dire. Et après il y a l'Australie.
C'est ça.
Oui.
Le Timor qui est séparé en deux d'ailleurs.
Oui.
Hein,
oui.
Il y a Timor Leste et le Timor indonésien, mais qui est beaucoup plus sec d'ailleurs.
Oui.
Hein,
Et d'ailleurs en fait notre gouvernement a commencé de trouver un nouveau 10 Bali. Vous voyez, c'est la destination de touristique.
Ça, c'est le projet du ministère du tourisme.
Voilà, c'est ça. Comme Komodo, l'île Komodo, et puis Labuan Bajo.
Alors, attendez, ce qu'il faut dire, c'est que les îles Komodo où il y a Labuan Bajo sont les îles où on trouve cet animal mythique.
Oui, c'est ça.
Qu'on appelle le
dragon de Komodo.
Dragon de Komodo.
Exactement.
C'est-à-dire que si
c'est le mot indonésien, en fait, Komodo.
Komodo.
Voilà.
Et cet animal qu'on a l'impression qu'il vient de la préhistoire.
Oui,
hein.
Oui, c'est ça.
S'il vous attrape, il vous mange. Hein.
Alors, c'est pas des animaux qui sont super, super dangereux à proprement parler, mais c'est vrai que très rarement, dans certains cas, il s'est attaqué à l'homme. Donc, ce sont des lézards un petit peu géants. Ils sont sans histoire. Si on les embête pas, ils devraient pas nous embêter. Mais bon, c'est vrai qu'avec, ils sont plutôt de nature imposante. Donc, il vaudrait mieux ne pas s'approcher. On sait jamais. Mais très connu sur les deux.
Ils ont une langue avec un venin spécial.
C'est ça.
Après, ils vous regardent mourir.
Oui.
Et après, ils vous amènent dans leur garde-manger.
Un petit peu ça.
C'est
ça.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas aller nager sur les îles la nuit.
Voilà, c'est ça.
Dans le parc de Komodo.
Oui, exactement. Oui.
Qui est une des plus belles merveilles du monde, d'ailleurs, le parc de Komodo aujourd'hui, qui est une attraction incroyable en Indonésie.
Oui.
Oui,
il y a d'autres aussi qu'on a préparé en fait pour comme je reviens tout à l'heure au propos de Nouveau Bali. Nouveau Bali, c'est Komodo et puis
le Nouveau Bali, ouais. C'est ça.
Et puis Danau Toba.
Danau Toba, c'est le lac Toba.
Lac Toba et puis Borobudur, tout ça, il y en a.
C'est des circuits, plus ou moins. C'est-à-dire
Le lac Toba est peut-être le plus grand lac du monde aujourd'hui sur un volcan.
Ça. Il y a une grande île dedans qu'on appelle Samosir.
Samosir,
l'île de Samosir.
Mais c'est le plus grand.
C'est grand.
C'est tout
Samosir, on prend un ferry pour aller à Samosir et vous avez toutes les populations qui vivent.
Voilà, c'est ça.
Qui vivent au bord du lac.
Au bord du lac, voilà.
Ils sont autochtones, encore d'origine de cette île-là.
Il y a un aéroport depuis 2 ans maintenant, on peut y aller.
On peut aller.
Avant, il fallait le mériter, le lac Toba. Hein. Ouais. Fallait traverser.
Le ministère a fait beaucoup sur cela. Et justement, en 2019, leur destination prioritaire, c'était c'était le lac Toba. Il y avait le temple Borobudur, Java.
Oui,
on a reparlé de Komodo. C'était pareil. C'était dans leur liste, en fait, où Raja Ampat. Ils devaient un petit peu promouvoir ces destinations pour ne pas que les touristes aillent simplement à Bali.
Alors, Raja Ampat, n'y allez pas. surtout, écoutez-moi, ne googlez pas le mot sur votre... Et surtout, n'y allez pas. Il ne faut pas aller à Raja Ampat. Ça devrait être interdit d'aller à Raja Ampat.
Oh, okay.
C'est l'endroit le plus beau du monde aujourd'hui.
Oui.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est la destination la plus belle du monde, Raja Ampat.
Pour la protection des coraux et tout, enfin, le gouvernement fait encore beaucoup de choses. C'est vrai que pour la plongée, il n'y a rien de mieux que d'aller à Raja Ampat. Tous les plongeurs, enfin, ceux qui rêvent de plonger sous-marine.
C'est quand on parle de la naturalité, quoi. C'est vraiment naturel.
Ouais, c'est très...
C'est très fraîche. Et vraiment, c'est comment
C'est authentique, naturel, c'est naturel. Authentique, hein, c'est naturel, voilà, hein.
Naturel.
Il n'y a que de l'écotourisme, hein, d'ailleurs, là-bas, à Raja Ampat.
C'est très important. Hein,
ou des voiliers de luxe, mm-hmm. hein, où on peut aller. Mais c'est loin, c'est loin. Et,
oui, c'est loin.
Et heureusement.
C'est à peu près 6 heures de Jakarta.
Oui, de Jakarta. Mm-hmm. Ouais.
Donc, ça, c'est votre pays. Est-ce que tout le monde sait où c'est l'Indonésie, finalement? Ça se trouve où, l'Indonésie?
L'Indonésie, en fait, c'est l'Asie du. C'est entre Australie en bas, et puis en haut, c'est comme Malaisie, ouais. Et puis Philippines, et puis Japon. C'est vraiment. Il y a un certain groupe de
c'est toutes les îles qui sont délaissées plus ou moins. Non, mais en fait, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que ça commence un petit peu, c'est un petit peu coincé avec la péninsule malaisienne, c'est-à-dire qu'on a la Malaisie, puis on a Sumatra qui est pas très loin, en fait, au niveau de la latitude. Et puis plus on descend et plus on a en fait cette diversité d'îles, ces nombres d'îles, jusqu'à ce qu'on arrive presque en Papouasie, hein, qui est plutôt du côté de l'Océanie. Donc en fait c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui touche aussi une partie avec l'Océanie. Donc
il y a combien de fuseaux horaires, professeur?
Il y a trois fuseaux horaires. Et maintenant le plus l'Ouest, c'est-à-dire l'Indonésie de l'Ouest, c'est 5 heures différent avec la France plus. Par rapport de la France.
Ouais, par rapport à Paris. Ouais.
Et puis en fait, vous savez, l'Indonésie c'est le 14e au niveau de superficie, hein, du monde en fait. Ouais.
Mais au niveau de la population, c'est le
4e.
C'est
voilà.
Le 4e.
Voilà,
hein. Et c'est le pays aujourd'hui qui comprend le plus de musulmans au monde.
Oui, à peu près 87%.
Oui, mais en millions, ça fait.
Oui, ça fait
200 millions peut-être.
Ouais. Bah, l'Indonésie est 267.
Voilà,
265 d'après le dernier recensement.
267,
donc,
c'est
2019. Voilà, prédominance très, très musulmane, évidemment. Des gens locaux extrêmement charmants, extraordinaires.
Oui, avec des différentes la langue régionale, qui est plus de 700 langues.
On va parler justement
langues. Parce qu'il y a tellement de richesse, l'Indonésie, c'est pour ça.
On va parler javanais tout à l'heure. Book Club spécial Indonésie ce matin jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et aujourd'hui, on vous propose de faire passer des images à la radio puisque c'est un livre de photos dont on parle. Ça s'appelle Beyond Java. C'est le premier tome de toute une série de livres puisque notre invité, Marius Morales, eh bien, va se promener dans toutes les îles d'Indonésie et puis il y aura un exemplaire par île. Le professeur Warsito est venu avec nous, attaché pour l'éducation et la culture à l'ambassade d'Indonésie. On dit que finalement, la beauté se cache dans l'œil de celui qui photographie. Qu'est-ce qu'il y a, professeur Warsito, dans l'œil de Marius qui montre votre pays que vous ne voyez pas?
Oui, en fait, c'est ça, c'est ce qui est vraiment, entre guillemets, génial de M. Marius. Il a pour de montrer à nous, en fait, la purité de parce qu'en fait son objet de photo de la photo c'est des enfants et les personnes âgées et c'est deux coins ça c'était au bout de cette âge il a trouvé en purité et puis la sincérité et puis
authenticité
ouais. Et c'est ça c'est que vraiment je trouve ça nous touche aussi parce que c'est ça l'exact de l'information ce qu'on traverse de la photo de Monsieur Marius.
Voilà, parce qu'il a photographié les gamins, les personnes âgées et les paysages.
Voilà,
c'est paysages. Ça, c'est un mix un petit peu de tout. Et c'est ce que disait le professeur Warsito, c'est que j'aime bien aller dans les extrêmes. Ça permet d'avoir le maximum d'émotions. Lorsqu'on photographie les enfants, c'est les enfants, voilà, ils sont synonymes de joie, de bonne humeur, surtout d'énergie. Alors que les personnes âgées, elles vivent encore avec leur temps, elles portent encore leur voilà leur costume traditionnel. Ce sont des personnes qui sont très ancrées dans la culture. Et en fait, ça crée une unité de la diversité. Un petit mix parfait. Mm-hmm. Et puis voilà, ça me rappelle que en fait hier je parlais à des Indonésiens et ils me disaient moi je suis très mélancolique en voyant ton livre parce que ça me rappelle tellement de choses profondes que j'ai vécues durant mon enfance. J'ai été élevé en fait dans ces milieux-là et c'est vrai que je pense qu'il y a pas beaucoup de livres qui ont été faits sur Java en particulier avec comme focus majeur les locaux. Voilà.
C'était ce que Java qui a été classé comme une des îles au monde les plus attrayantes en termes de tourisme parce que c'est là où il y a le plus de choses à faire. Si vous survolez l'île de Java en avion, c'est une des îles où vous voyez un maximum de volcans.
C'est
incroyable de voir le nombre de volcans. Combien de volcans on a en activité,
Java,
vous savez,
à Java, il y en a plein. Ce que je connais déjà, Tangkuban Perahu, c'est à l'ouest de Java. Et puis Bromo.
Bromo, il y en a beaucoup en activité. Hein. Il y a...
Vous avez une très belle photo de Bromo. À Jogja, il y a Merapi.
Il y a Merapi, il y en a beaucoup.
Tout
cela, c'est en activité, voilà, Bromo. Après, il y en a plus de 130, je crois, 140 qui sont encore en activité sur tout l'archipel. Oui. Les volcans, uniquement ceux qui sont en activité. Donc,
c'est Java, ce qui est connu, c'est ça. C'est Bromo, ce qui est encore actif maintenant.
Bromo est encore actif.
On le voit, il fume. Hein.
Oui, il fume. Si on prend l'avion, ça se voit parfois.
D'ailleurs, on peut monter tout au bord de Bromo, au niveau du cratère, pour justement voir et apprécier de plus près les fumées. Enfin, l'Indonésie, c'est vraiment un pays touristique, mais c'est l'aventure complète. Hein. C'est très exotique.
Bromo, hein, c'est vraiment très touristique, puisque le matin, vous avez ce que j'appelle les rodéos de 4x4 que Toyota, à 4h du matin, qui roule dans la poudre volcanique pour aller voir le lever du soleil.
Voilà. C'est la rentrée, en fait, c'est par, je sais pas si c'était Marius par Malang ou par Propolinggo, parce qu'en fait,
il y a deux entrées.
Dans le parc. C'est par avec, c'est ça, justement, avec la voiture de.
Il y a plusieurs façons pour y aller. Moi, je suis allé, tenez-vous bien. Je suis allé en moto, en fait. Donc, je traversais tout le désert que l'on voit sur l'image.
Qui est volcanique.
C'est un désert de sable. Voilà. Ce sont des cendres volcaniques, en fait, que l'on traverse de nuit. Donc, il y a beaucoup de 4x4. Il est beaucoup plus préférable et d'ailleurs, beaucoup plus confortable d'y aller en 4x4, naturellement, qu'en moto. La moto, c'est très glissant et c'est très, très fatigant. Mais voilà, je l'ai fait de ma langue et moi, ça me dérange pas parce que je suis vraiment baroudeur, aventurier. Donc, c'était vraiment pour apprécier le lieu et me fondre dans la masse un petit peu de ce lieu inédit.
Mais il y en a maintenant beaucoup de, comme service de touristique qui est vraiment un paquet complet, quoi, de Malang pour aller Bromo pendant une semaine.
On a un auditeur algérien qui est installé aujourd'hui à Malang et qui fait des tours pour justement amener les touristes en haut des volcans.
Oui,
donc il y a vraiment et on peut y aller à cheval pour ceux qui veulent pas marcher.
Il y a
des chevaux qui vous montrent. Mais c'est incroyable, c'est des choses qu'on voit pas beaucoup, ça.
Oui.
Bah, Bromo, je pense que c'est l'un des endroits d'Indonésie le plus réputé pour ces fameux sunrise, les levées de soleil. Hein,
ça, c'est connu aussi avec comment la culture de Tengger, qu'on appelle Tengger. Voilà. Tengger, c'est comme ethnique javanaise.
Le peuple ethnique.
L'un des plusieurs ethniques à Java.
C'est un sous-groupe ethnique qui fait partir des javanais. Donc, ils sont considérés comme javanais, mais parce qu'ils vivent, en fait, dans les environs du massif Bromo. Faut pas croire qu'il fait chaud là-bas, il fait en fait plutôt très froid dans les villages.
Le matin.
Non, mais même dans la journée, je veux dire que c'est supportable. Oui. D'ailleurs, c'est mieux comme ça, je dirais, parce qu'en Indonésie, c'est très humide, mais ce sous-groupe ethnique a la particularité de se voiler, mais de se mettre ces shorts de. Des sortes d'écharpes, en fait, parce qu'en fait, ils portent toutes des écharpes. Et c'est un petit peu ce que j'ai photographié dans mon livre, c'est qu'il y a certains tribus qui portent ce genre d'écharpe, c'est très coloré, hein. C'est vraiment et toutes les femmes là-bas que j'ai rencontrées ont l'habitude de fumer. Alors elles ne fument pas pour le plaisir, elles fument parce que lorsque je leur ai demandé, elles m'ont juste répondu c'est une manière pour nous de se réchauffer, de se sentir un petit peu mieux. Alors, mais
les Indonésiens ont vite froid, même quand il fait 25 degrés, hein, faut vous dire.
Exactement. Donc,
pour nous, c'est, il fait pas froid, en fait.
Il fait pas froid du tout.
C'est pour eux, par exemple, pour un Indonésien, une ville comme Bandung, c'est une ville où il fait frais. Une ville comme Malang,
c'est une ville qui fait... À peu près 22 degrés.
Un Indonésien a toujours froid, à 20 degrés. Je veux dire que dans le pays, on oscille entre 28 et 32 degrés. On va dire une température moyenne de 30 degrés toute l'année. On n'a que deux saisons, hein, naturellement.
Voilà, hein. C'est jusqu'à 30.
Voilà, on a la saison sèche, saison des pluies. Mais la saison sèche, c'est très sec. Il ne va pas pleuvoir du tout. Par contre, la saison des pluies, il faut s'attendre à une averse un petit peu tous les jours. Voilà, de 2-3 heures. Et puis après.
Alors, Java, c'est une île énorme. Ça fait combien de kilomètres, Java?
À peu près 1200, la longueur de, de Java, l'île Java.
Bon, donc 1200, vous, Marius, vous êtes parti comment à la découverte de Java?
Ben moi, je vivais à Jakarta. D'ailleurs, je vis toujours à Jakarta. Mais voilà, je suis parti avec ma propre moto de Jakarta et j'ai vagabondé dans toutes ces rues, en fait. Je me suis perdu, en fait, sur l'île de Java. Bon, j'avais un petit parcours à respecter. Enfin, je savais plus ou moins où aller. Mais voilà, j'ai surtout... J'ai aussi en fait toutes les routes de Java en partant de l'ouest parce que Jakarta c'est vers l'ouest et je suis allé après vers l'est jusqu'à Surabaya avec même Madura, enfin voilà, j'ai fait vraiment tout de Java. Je fais 10 000 km sur l'île, donc même si ça fait que 1200, c'est une île qui est très riche en histoire.
Quand vous dites moto, c'est un scooter ou une vraie moto?
Alors c'est un scooter.
Ouais, parce que
j'ai honte de le dire.
Je vous pose la question parce que
moto avec 150 cm.
Alors en fait, après c'est voilà, c'est avant tout une moto, même si ça se range à la catégorie des scooters, mais bon, c'était une moto qui m'a suffi. Hein. C'était suffisant pour avancer sur les routes, tout ça.
Non, elles avancent bien. Mais quand on connaît la façon dont ça circule en Indonésie, moi je peux vous assurer, il faut avoir le cœur drôlement accroché pour circuler sur les routes de Java.
Exactement.
Oui. Vous n'avez pas eu d'accident?
Alors je suis tombé quelques fois, c'est vrai. Les endroits où je suis tombé, ça a été des endroits en fait où j'étais quasiment à l'arrêt, donc ça n'a jamais été trop dangereux. C'était surtout des chemins avec beaucoup de cailloux, enfin hors sentier. C'était toujours c'était des fois il y avait des chaussées glissantes. Disant que juste avant de commencer ce périple, j'avais vécu à Jakarta, donc j'avais déjà ma moto dans Jakarta, donc je m'étais habitué et familiarisé avec ce code de la route que les Indonésiens ont, qui est pas toujours facile. Hein, c'est une histoire de feeling des fois en Indonésie pour conduire, hein, mais ceci dit, les gens sont respectueux, il y a jamais aucun problème.
Juste pour ajouter, en fait, maintenant le gouvernement a déjà autoroute vraiment principale, parce qu'en fait c'était il y a qu'un seul route principale de l'ouest de Java jusqu'à l'est, qu'on l'appelle ici, en fait c'est les Français qui avancent ça, c'est Deandres. En fait, c'était la colonie hollandaise. C'est ça l'histoire. Mais maintenant, le gouvernement a déjà le vraiment grand autoroute qui est direct de Jakarta jusqu'à au bout de, même c'est pas Jakarta.
On peut aller jusqu'à Surabaya en autoroute.
Voilà, même plus que ça.
Ouais. Ils viennent de faire des nouveaux trains de luxe, en fait, qui vous amènent de Jakarta à Surabaya à 9 heures avec des couchettes, tout ça. C'est assez luxueux. Et il y a un projet de gouvernement. Ils veulent construire dans les 5 prochaines années, je crois, un TGV très grande vitesse qui relie Jakarta-Bandung en une heure seulement.
Depuis le temps que j'en entends parler, ça fait 10 ans que j'entends parler de ce train à grande vitesse que les Chinois doivent faire.
Ça se réalise. Ça commence.
Ça a commencé. Les travaux ont commencé.
Oui. Alors, de Jakarta-Bandung, c'est la première. Et puis, je vous dis aussi qu'au Jakarta, en fait, on a le métro qui est vraiment élégant.
Il y a une ligne.
Oui, mais quand même, on a commencé.
Il
y a une ligne, 20 stations.
C'est vraiment magnifique.
Il est super. C'est un peu le même qu'à Kuala Lumpur.
Oui, oui.
Le MRT, quoi.
Oui. Même technologie qu'à Singapour et à Kuala Lumpur. Donc, très, très moderne. Très moderne.
C'est incroyable. Bandung, la ville dont vous venez de parler, c'est la ville de l'appel la conférence des pays non alignés, de la conférence.
L'Afrique-Asie.
Voilà. Et vous pouvez voir le musée de la conférence qui est encore, mais dans un super état. Pour les Algériens qui nous écoutent et qui sont nombreux, c'est aussi Ossinait Ahmed qui faisait partie de la délégation du FLN et qui faisait partie de cette conférence de Bandung qui a marqué l'histoire. Mais le musée de la conférence est dans un état de conservation incroyable. Il est vraiment intéressant à voir ce musée.
D'ailleurs, cette année, en fait, à propos de ça, en fait, chaque année, nous, on a collaboration avec l'Université de Sorbonne et l'Université de Douave de faire commémoration de cette conférence, en fait, de Bandung. C'est chaque année ici en France. Et collaboration avec des universités en France, et puis l'Indonésie, et puis avec les Afriques, les universités africaines. Et c'est ça, en fait.
Alors pourquoi, j'ai pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'on appelle Bandung, cette ville qui est pas très loin de Jakarta, Paris van Java? Alors là... Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire on appelle Bandung le Paris de Java.
Non, parce que c'était l'histoire de comment le au niveau de climat. Ouais. C'est un peu comme.
Moi, je pense qu'il y a une influence au niveau hollandaise, surtout Hollandais, parce que les Hollandais ont aussi passé beaucoup de temps dans Bandung et c'est vrai que ça a été un centre-ville qui a été on va dire plus ou moins conservé, préservé aussi.
Et d'ailleurs,
comme
la capitale, le côté art déco, a été aussi
art déco. À Bandung. Hein. D'ailleurs, Bandung, c'est la ville des artistes, hein, la ville des créatifs. Hein. On trouve beaucoup de très talentueux designers et artistes à Bandung. Oui. Hein. Ils viennent majoritairement de Bandung. Hein. Oui. Ils tirent leurs inspirations du climat de Bandung. Donc peut-être que voilà, ça pourrait faire allusion au Paris Van Java que l'on parle tellement.
Voilà. Et vous, Marius, dans votre livre de Bandung, vous nous présentez surtout ces terrasses de thé. Parce qu'il y a énormément de plantations de thé.
Exactement.
À Bandung, d'ailleurs, c'est le verger de l'Indonésie, hein. Ouais. Oui, puisqu'il y a des avocatiers, des fraisiers.
Oui, exactement.
Je crois que ce sont des plantations ce sont les plus grosses plantations de Java, hein,
même
d'Indonésie.
C'est ça, Bandung,
hein. Tout le sud de Bandung, ça propose des terrasses de thé extraordinaires, qui sont aussi très, très appréciées, par les voyageurs pour leur lever de soleil, tout ça. Il y a même des cueillettes de fraises que l'on peut faire dans ces genres de terrasses de thé. Donc, c'est très, très intéressant. C'est très vert. Il y a toujours quelque chose à faire à Bandung, en fait. Qu'on aille au sud ou au nord, il y a toujours. C'est très, très varié.
On n'a jamais fini visiter Bandung, en fait.
Mais en fait, c'est ça qui est super curieux. C'est que j'ai plein d'amis de Bandung lorsqu'ils ont vu mon livre ou lorsque je leur montre des fois des photos, ils me disent, Marius, je comprends pas parce que moi je suis de Bandung et je connais pas ce lieu.
Oui.
Alors c'est vrai qu'il faut creuser, il faut un petit peu se perdre, il faut aller aux alentours. Et je me suis aperçu que ce livre, c'était avant tout pour, d'une part, pour promouvoir le tourisme en Indonésie, puisque j'ai travaillé en collaboration avec le ministère du tourisme d'Indonésie. Mm-hmm. Mais d'une deuxième part, c'est une invitation à la découverte, à l'aventure et un troisième point, j'aimerais dire que c'est surtout c'est un moyen pour aux Indonésiens de se rappeler de toute leur diversité, d'où ils viennent en fait, de leur beau pays et c'est à caractère un petit peu d'apprentissage. Pour eux, ils apprennent même à travers ce livre. Donc moi, je me suis étonné parce que je pensais que tout le monde savait ces lieux, enfin qui pour moi sont extraordinaires, alors que la majorité me disent « Ah ouais, ben en fait je ne savais pas ». Donc je trouve ça assez intéressant, voilà.
C'est ça qu'on appelle Beyond Java, c'est ça?
Ben le Beyond Java, le au-delà, c'est d'aller au-delà des sentiers battus, c'est pour ça que j'ai appelé la collection du livre.
Une île.
Beyond Java.
Et on continue justement d'aller et de pousser les portes de Java ce matin jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est un livre de photos, un très beau livre qu'on vous présente aujourd'hui. Il s'appelle Beyond Java avec nos invités, Marius Moragues, baroudeur photographe qui a pris les photos depuis 5 ans. Hein, premier voyage en Indonésie en septembre 2015. Et depuis, vous en avez fait du chemin, vous avez baroudé. Vous parlez un Indonésien parfait. Je suis hyper jaloux de vous, je dois dire, franchement.
Saya coba bicara bahasa Indonesia. Alors j'essaye, en fait, j'ai surtout appris l'Indonésien. Alors c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que je parle surtout en Indonésien pratique. Hein. J'ai encore du mal à comprendre l'Indonésien dans les livres, les romans, tout ça, parce que faut pas croire que l'Indonésien est une langue si facile à apprendre, mais c'est vrai que pour se faire le pied et lorsqu'on démarre, j'ai toujours fait en sorte d'apprendre un minimum quelques mots de la langue locale du pays dans lequel je voyageais. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en Indonésie. Et puis j'ai appris l'indonésien après de manière, on va dire, je sais pas si je pourrais dire ça sérieuse, mais je l'ai surtout appris dans les bidonvilles à Jakarta. J'étais très à l'aise avec les enfants, les gosses dans la rue. Et je portais pas de masque, donc je savais que même si je faisais des erreurs, tout ce que je m'attendais, c'était surtout des rires et des éclats de joie. Donc c'est d'une part, ils m'ont donné confiance et c'est eux qui m'ont appris l'indonésien plus ou moins. Donc je le dois aux enfants de la rue comme ça.
Alors professeur Warsito, on parle de Java, mais Java c'est aussi une ethnie.
Oui, c'est ça.
Orang Jawa, on dit.
Orang Jawa, voilà, c'est ça. En fait, c'est les Javanais.
Les Javanais,
oui. En fait, c'est à Java, c'est plus de, peut-être je dis plus de 20 ethniques groupes à Java. Et puis Java aussi, en fait, c'est le plus grand ethnique en Indonésie. De Java, c'est à peu près 56% d'habitants de l'Indonésie vivent à Java.
Mais les gens qui vivent à Java ne sont pas tous des Javanais.
Non, il y en a, c'est ça. À peu près plus de 20 ethniques à Java. Et surtout, eux, ils ont la propre de la langue. la langue régionale ou la langue ethnique qui est vraiment riche. C'est justement c'est à ça. Travers de la photo ouais. de Monsieur Marius, il a pour montrer en fait les différences à se voir. Comment
en fait, voilà, c'était mon but à travers ce livre. C'était mmh. Ce livre a plusieurs aspects. D'une part, comme on vient de mentionner tout à l'heure, c'était surtout pour promouvoir le tourisme indonésien, qui est un pays magnifique, mais surtout de je m'étais lancé le défi de retrouver toutes les ethnies de Java, puisque pour moi, ce qui me parle le plus, c'est les costumes, les couleurs. Voilà. Et d'un point de vue esthétique, dès qu'on commence à faire de la photo, naturellement, c'est, mmh. y a une histoire, il y a un impact qui est créé. Et à ce que dit monsieur
même si les gens, au départ, ne voient pas toujours la nuance et la différence. Ouais. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que oui. chaque région est très, très différente, en fait.
Mais c'est ça.
Au niveau du langage, oui.
C'est au niveau du langage, oui, très, absolument. C'est, tu l'as dit, voilà.
On a en fait c'est 700 langues régionales en Indonésie.
Langue, ouais.
Et Java... c'est ça qui est utilisé. Hein. C'est-à-dire, c'est pas seulement nombre, mais utilisé jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, nous, notre gouvernement a comment le projet, c'est-à-dire au niveau enseignement, c'est obligé d'apprendre le langage régional. Ça. Où ils sont.
En plus de la langue nationale.
Nationale, voilà, bahasa Indonesia. D'ailleurs, je vous invite en fait pour apprendre bahasa Indonesia à l'ambassade. Parce en fait, qu'on a classe de cours bahasa Indonesia.
Il y a surtout une préservation culturelle au niveau des langues. Alors oui. pas tous les dialectes, parce qu'il y a des dialectes qui se perdent. Mais c'est vrai que on va dire que oui. chaque Indonésien, même à Jakarta, parce que oui. il y a très peu de gens qui sont nés à Jakarta, à part Orang Betawi, Asli Jakarta. Mais la plupart, en fait, viennent des provinces et des villages. Donc, du coup, ils sont totalement bilingues. Ils parlent leur propre dialecte, le javanais, le soudanais, peu importe. Oui. Et le bahasa indonésien, la langue nationale qui a permis de réunir, en fait, l'archipel.
Oui.
Okay. On parlait de Betawi et on parlait tout à l'heure de soupe.
Voilà. Alors,
et voilà Soto Betawi, c'est très très bien aussi.
Oui, Soto Betawi, c'est comme nous. Hein. C'est comme nous, vraiment typique.
Oui, parce que quand on parle de la cuisine indonésienne, les gens disent Soto Ayam. Non, mais il y a aussi des soupes qui sont très régionales. Oui. Soto Betawi est une grande soupe.
Oui, c'est ça. C'est un peu plus lourd par rapport à si on dit Soto Java ou bien Soto Ayam. C'est un plaisir. Mais par contre, Soto Betawi, c'est lourd parce qu'il y a des cocos.
Ce sont les épices et les ingrédients qui changent. Voilà. C'est vrai qu'on aime bien mettre Soto et la ville dans laquelle le Soto, la soupe, en fait, est fabriquée. Hein. On a aussi le saté, et ça me fait penser au saté Ponorogo qui est très, très connu.
C'est ça.
C'est un saté qui est spécial, c'est pas le saté que, par
Alors,
exemple.
Ponorogo, c'est une région, hein.
Oui,
Ponorogo,
oui.
c'est une région à Java, en fait, mais c'est pas le même saté que l'on peut trouver à Jakarta, même si Jakarta propose beaucoup de restaurants d'une diversité culinaire absolument surprenante. Voilà. Peut-être qu'il y a du saté Ponorogo à Jakarta.
Saté qui est connu, mais oui, c'est ça, Ponorogo, et puis saté Madura.
Saté Madura, voilà. très, très connu aussi, voilà. Il y a.
Madura, c'est une île.
Oui, c'est
hein,
ça.
Qui est à côté de Surabaya.
C'est ça, qui est rattaché à.
Moi, je l'ai connu quand on y allait en bateau, parce que maintenant, il y a un pont.
Il y a un pont.
Il y a un pont très, très moderne, oui, il doit être le plus grand pont d'Indonésie.
Oui, oui, plus ouais. long, oui.
Mais, je l'ai traversé à moto et c'est vrai que c'est absolument surprenant.
Hein, et avant, on y allait en bateau. Hein,
oui,
il a quoi, une dizaine d'années, le pont, à peu près.
Mais plus, non. Parce plus, que ouais. Oh non, oui, dizaine ouais. à peu près.
Mais c'est particulier les gens qui vivent à Madura encore. En plus, c'est une population particulière, oui. très particulière, hein, Madura. Ouais.
Ben moi, je l'ai trouvé Madura. Avec les ethnies, parce que l'ethnie les Madurais, qu'on appelle Madurèses, ouais. existe. Ouais. Et c'est une île qui est propre à cette île. Alors, l'île, au niveau du décor, c'est pas l'île que j'ai préférée le
non,
plus. C'est plutôt plat.
Oui,
hein.
oui, non, c'est une
Mais
île
par contre, au niveau des gens, j'ai trouvé les gens très, très intéressants au niveau de leurs costumes, tout ça. J'ai réussi à trouver les ethnies, enfin, et c'est vrai qu'ils sont, ils font partir de l'île de Java, mais ils se sentent quand même vraiment madurés.
C'est, oui, c'est pour ça que je vous disais qu'ils ont une identité qui est très, très forte.
Très, très voilà, forte. C'est comme la Corse et la France, par exemple.
Même au niveau de leurs pratiques religieuses et
voilà,
tout.
Exactement.
C'est là-bas, c'est presque 100% musulman là-bas, à Madura. Et puis, ils ont aussi propre langage.
Le madouré, voilà. ouais.
Donc, c'est complètement différent. Et même nous, Javanais, on habite à Surabaya, on comprend pas.
un petit peu moins ouvert que les Javanais, j'ai trouvé à première vue. Mais une fois qu'on passe du temps avec eux, on s'aperçoit qu'encore une fois, c'est un peuple absolument extraordinaire, très ouvert. Enfin, c'est juste une question de temps avant de briser la glace.
Oui. Vous avez rencontré et photographié des enfants, des vieilles personnes. Vous avez rencontré énormément de femmes centenaires. D'ailleurs, celle qui fait la couverture et qui était photographiée en couverture de votre livre a certainement plus de 100 ans. Hein.
Presque, oui, c'est vrai.
Mba Warsina.
Ouais.
Vous l'avez rencontrée où, vous
Elle a 93 ans, donc on peut dire qu'elle est déjà très très proche de ses 100 ans. C'est une dame que j'ai rencontrée quasiment au cœur de Java, dans la petite ville de Boyolali, juste après Solo, enfin juste avant ou après Solo, peu importe d'où on arrive dans Java, mais une dame absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que d'une part, je l'ai rencontrée presque au centre de l'île. Donc c'était vraiment au cœur de Java. C'était pour montrer à quel point c'était un petit peu, c'est une dame qui résumait toutes les rencontres que j'avais pu faire avec les locaux. Sauf que elle a la particularité, c'est que elle est encore active dans les champs. Il faut savoir que les gens, même centenaires ou très très vieux, travaillent toujours. En Indonésie, on connaît très peu la retraite. Tout simplement. Donc en fait, c'est des gens qui travaillent toujours. Ça a été leur mode de vie. Ils s'activent toujours. Ils ont toujours quelque chose à faire. Et je pars dans mon livre, justement, dans le premier chapitre, je fais une dédicace spéciale sur la longévité. Pourquoi il y a tellement de gens vieux comme ça qui arrivent à vivre dans les campagnes alors qu'ils ont un confort moindre, un confort moyen que nous on n'a pas en France. Et du coup, je m'interrogeais sur la nourriture qu'ils mangeaient. Alors, c'est toujours le même type de repas en Indonésie, mais c'est vrai que lorsqu'on va dans les villages, c'est pur, c'est frais.
Cool, voilà.
Voilà, la super centenaire que j'ai rencontrée.
C'est bio et c'est ça. C'est bio sans le savoir.
C'est bio. Il y a pas de, c'est pas procédé. Il y a du riz, c'est du riz frais. Les gens et les, il y a encore beaucoup de pêcheurs en Indonésie.
Même avec les plats, les feuilles de.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Mmh. Et le poisson est juste délicieux. Et là-bas, ils pêchent du poisson frais. Tu l'as dans ton assiette, tu peux manger comme ça. Ouais. Et c'est pas trafiqué, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas, voilà. On oublie les fast-food et tout ce genre de choses. On est dans un autre monde, en fait. Hein, donc.
Dans les campagnes. Parce que dans les grandes villes, aujourd'hui.
Dans les grandes villes, voilà, c'est très différent. Il y a un contraste qui est créé, mais.
Dans les campagnes, dès qu'on sort des sentiers battus, justement.
Exactement.
On arrive.
Exactement.
Vous avez réussi à justement vous immerger dans une communauté qui s'appelle les Badouis, où vous avez rencontré Nini Hidik, elle plus de 110 ans.
Exactement. Mmh. C'est elle dont je parlais tout à l'heure, et c'est vrai que, c'est la dame la plus vieille que j'ai rencontrée, c'est la doyenne du village, et je demandais à mon ami justement qui parlait indonésien, puisqu'il parle encore une fois un dialecte badoui que je n'ai pas pu comprendre, pourquoi une telle dame pouvait vivre aussi longtemps. Et c'est là où je me suis questionné sur la nourriture, l'environnement, la pollution. C'est assez impressionnant, sachant que c'est des villages qui se trouvent au pied de la montagne Kendeng, à 4 heures de Jakarta seulement, alors que Jakarta est une véritable jungle urbaine, ça n'a rien à voir. On parlait des fast-food, tout ça, c'est un contraste absolument, c'est diamétriquement opposé. Hein. Mais Nini Hidik que j'ai rencontré, alors c'est une dame très très peureuse qui n'a pas voulu forcément se faire photographier, parce que c'est des tribus qui vivent tellement, elles sont tellement ancrées avec leur temps que ben voilà, elles ont jamais vu un appareil photo, donc elles pensaient quasiment que c'était une arme. mais j'ai réussi à avoir une très très belle histoire dans mon livre concernant cette longévité de Nini Hidik, qui est.
Alors il y a une autre dame qui est passionnante dans votre livre, elle s'appelle Majasia, et elle est encore en activité. Hein.
Exactement, Majasia qui est.
Vous montrez ses mains. Hein.
Qui est une des dernières sages-femmes traditionnelles d'Indonésie à Cirebon, enfin pas très loin de Cirebon, à Girinata. Exactement, un petit village coincé entre Cirebon et Majalengka.
Moi, je kiffe Cirebon. Alors là, il n'y a pas beaucoup de touristes à Cirebon.
Et Majalengka, il y a encore plus touristique.
Il y a une très jolie gare Art Déco qui est préservée. Il y a le réservoir d'eau qui est l'emblème de la ville, d'ailleurs. Hein. Incroyable.
Et du coup, cette dame travaille encore. Alors aujourd'hui, elle a 100 ans. Au moment où je l'ai rencontrée, c'était en 2017. Elle est toujours en vie. Elle m'apprécie comme si j'étais son petit-fils et elle aide encore les jeunes mamans, elle les soulage, elle leur fait des massages. Ce sont des personnes qui sont, on va dire, en activité, mais au-delà de cela, c'est aussi la doyenne de son village et surtout, elle a une dimension spirituelle qui est très appréciée. Elle se fait très respecter aujourd'hui dans le village et c'est pour cela, parce qu'à Girinata, par exemple, les gens sont tellement loin des hôpitaux qu'ils préfèrent, on va dire, encore se fier avec ce type de personnes qui, pour eux, leur parlent encore plus que les hôpitaux.
Elle est dépositaire des secrets de plein de choses.
Absolument.
Cette dame.
Absolument. C'est comme des secrets qui ont été,
De génération en génération.
Avec l'expérience.
Ouais. L'expérience, le savoir-faire, la façon de parler, la façon de toucher, ça peut être juste des choses simples, mais que, enfin, pour les locaux, ça
change. Maintenant, le gouvernement a fait un programme, c'est-à-dire pour les femmes, ou bien comme ça, qui ont la connaissance naturelle, et puis avec les descendants, avec l'expérience. Mais officiellement, on a aussi comme workshop, quoi, en fait, officiel, pour qu'ils soient plus avoir connaissance, comment gérer les femmes.
Vous avez compris l'importance qu'il y avait à dispenser tous ces savoirs-là, c'est ça?
Voilà, c'est
ça. Et de les garder, en fait.
Voilà. Ouais. Mais avec l'arrivée de la technologie, la science, c'est officiel. On a fait enseigner quoi en fait.
Je pense qu'il faut préserver. C'est pour ça que j'en parle dans mon livre et que j'y consacre une histoire. C'est parce que ce sont malheureusement des femmes qui, ben voilà, qui ont un savoir-faire et on ne sait pas si après Majassia, malheureusement, une fois qu'elle décédera, cette charmante dame, on ne sait pas si ça sera transmis pour les générations futures parce que.
Ouais, c'est toujours pareil, il y a la transmission. Marius, vous avez compris le secret du bonheur alors? Vous l'avez trouvé?
C'est une excellente question. Je dirais que j'ai trouvé une partie de mon bonheur, en tout cas personnel, parce que je me suis épanoui dans ce que j'ai fait et je pense que les gens ont aussi apprécié, voilà, ils ont aussi apprécié en retour ma présence, tout ça. Donc, c'est en me cherchant, en me trouvant à travers mes voyages que j'ai réussi à avoir une dimension du bonheur. Et aussi une dimension spirituelle que je n'avais pas en France. Ça m'a ouvert l'esprit sur des tas de choses. Et voilà, pour faire un topo très court, c'est pour moi le bonheur. Il est caché au plus profond de nous, quoi qu'il en soit. Il faut juste le trouver. Il est intérieur. Il est surtout pas extérieur, parce que la plupart des personnes âgées ou juste les enfants que j'ai rencontrés, comme je vous l'ai dit, voilà, ce sont des personnes qui sont comme vous et moi, mais elles ont une richesse tellement spirituelle, une richesse humaine à nous apporter, que cela va au-dessus d'une richesse purement matérielle. Et c'est ce que j'essaie de démontrer un petit peu dans mon livre, à travers les sourires et tout ça.
Bien, professeur Warsito, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut apprendre l'indonésien, le Bahasa Indonesia, dans la version nationale, à l'ambassade d'Indonésie. C'est gratuit, hein.
Gratuit.
Il faut le dire, gratuit. Gratuit. Il n'y a plus rien de gratuit aujourd'hui.
Cette année, on aura deux classes. Oui. La classe débutant et puis la classe... avancé entre guillemets, c'est pas trop avancé, mais juste pour avoir connaissance au début, lorsque par exemple, en fait nous on a un programme pour les touristes qui vont aller en Indonésie, vous pouvez rejoindre de ce cours gratuit à l'ambassade. Et par contre, parce que maintenant c'est encore comme Covid, on va essayer de faire par le online quoi, par média online, mais on va essayer de vous inviter dès qu'on possède la possibilité
online. Bien, et en attendant, pour vous donner une petite idée de ce que vous verrez sur place, vous pouvez lire Beyond Java, donc c'est le premier tome de cette collection, parce que vous allez aller d'île en île. Marius Moragues, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
On va se repartir à Carcassonne, parce que l'accent que vous avez, c'est pas l'accent tunisien, c'est l'accent de Carcassonne.
C'est encore carcassonné, oui.
Merci, professeur Warsito, d'avoir été avec nous et passé un très bon dimanche sur Beurre FM.
Merci. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.